chez Europe 'n Roll à Radio Fagette. Cette semaine, l'équipe de thé a préparé un gâteau délicieux pour vous, avec des ingrédients mélangés de toute l'Europe. On parlera de Life Earth, une initiative écologiste, la recette, rock'n'roll. On parlera de Horizon, un projet assez dingue, contenu 60 personnes, 8 arrêts d'autostop et la route d'Europe. Et en plus, on parlera du recyclage. Mais tout d'abord, écoutez la cuisinière Margot avec les dernières infos.
Eurogroupe. Les 12 ministres des Finances de la zone euro étaient réunis lundi dernier à Bruxelles avec la présence exceptionnelle du président de la République Nicolas Sarkozy. Le chef d'État français souhaitait convaincre ses partenaires que les comptes publics de la France ne seraient équilibrés que d'ici à 2012 et non d'ici à 2010 comme dans tous les autres pays européens. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin s'était pourtant engagé pour plus de rigueur au nom de la France avant les élections présidentielles. Les ministres des Finances allemands Peer Steinbrück et italien Tommaso Padoa-Schioppa ont critiqué la volonté française de faire cavalier seul et de ne pas respecter ses promesses. Nicolas Sarkozy a dû s'engager sur une première réduction du déficit public hexagonal d'ici 2008. La France devra en outre présenter dès septembre un programme complet de réformes structurelles. FMI. Les ministres des Finances des 27 ont désigné mardi le ténor socialiste français Dominique Strauss-Kahn comme le candidat européen pour la direction du Fonds monétaire international ou FMI. La Pologne souhaitait présenter son ancien premier ministre Marek Belka, mais les Polonais se sont finalement rangés à la décision de leur partenaire. Le poste de directeur du FMI revient traditionnellement à un Européen, tandis que la direction de la Banque mondiale est confiée à un Américain depuis la création de ces institutions dans les années 1950. Le directeur actuel du FMI, l'Espagnol Rodrigo Rato, souhaite démissionner d'ici octobre. Concurrence pour la Poste. Le Parlement européen a adopté mercredi dernier à une écrasante majorité le texte prévoyant l'ouverture du marché du courrier pour les lettres de moins de 50 grammes au 1er janvier 2011. Cette libéralisation a été repoussée de 2 ans. Le Conseil des ministres des communications aura ainsi plus de temps pour trouver une solution pour continuer à garantir à chaque citoyen européen au moins une levée et une distribution du courrier à son domicile 5 jours par semaine, même dans les zones reculées où cela n'est pas rentable. Les nouveaux adhérents de l'Union, les pays de très petite taille ou ceux dont le territoire est particulièrement difficile à couvrir, auront 2 ans de délai supplémentaire pour libéraliser le marché du courrier jusque 2013. La concurrence était déjà ouverte depuis le 1er janvier 2006 pour les envois de plus de 50 grammes. Pour les lettres standards, l'Allemagne et les Pays-Bas ont décidé d'ouvrir leur marché au 1er janvier 2008 en avance par rapport au texte. La Suède, elle, l'a déjà fait. On finit avec une nouvelle insolite en provenance du Danemark. Un club de la vitesse, Fartklubben, a annoncé mardi sur son site internet une offre peu courante. Le club de passionnés de voitures propose à ses adhérents de s'assurer contre les amendes dues aux excès de vitesse. Moyennant une adhésion de 995 couronnes danoises, soit un peu plus de 130 euros, les conducteurs peuvent se faire rembourser jusqu'à 4 amendes dans l'année à hauteur d'environ 1340 euros. Une assurance de même type est proposée aux conducteurs pour les PV de stationnement. L'initiative a bien sûr soulevé l'indignation du Conseil de la prévention routière du Danemark.
On commence cette émission spéciale du rock avec le groupe russe Distemper avec la chanson Prosobacek.
Слышишь, я куда?
L'impasse de distemper à Lenny Kravitz. Comment ça? Mais lui, il est un des 150 artistes qui se sont produits sur 9 scènes de par le monde, dans le cadre de Life Earth. Life Earth, ça c'est une initiative écologiste destinée à sensibiliser l'opinion mondiale aux dangers du réchauffement climatique. Ulrike vous explique tout ça.
Shakira à Hambourg, Jack Johnson à Sydney, Sarah Brightman à Shanghai, les Black Eyed Peas à Londres, Joss Stone en Afrique du Sud et Lenny Kravitz à Rio de Janeiro. Le 7 juillet 2007 était le jour pour voir des stars sur scène. Plus que 150 chanteurs et musiciens se sont rassemblés sur 7 continents pour le concert Life Earth. Life Earth a été le plus grand concert de tout le temps. Les artistes se sont succédés pendant 24 heures. Des stars du cinéma, de la mode ou de la politique présentaient les concerts aux millions de spectateurs. Même en Antarctique, 5 chercheurs ont formé le seul groupe de rock de la base scientifique de Rotterdam. Les savants survoltés ont joué devant 17 de leurs collègues par une température de moins de 18 degrés. Life Earth s'est donc vraiment déroulé sur tous les continents. Mais pourquoi tout ça? Pour entrer au Guinness des records? Eh bien non. Non seulement Life Earth était le plus grand concert jamais organisé, mais également le plus grand concert de bienfaisance de l'histoire. En effet, tous ces stars se sont rassemblés pour sauver le monde. Ça peut sonner exagéré, mais ça ne l'est pas tant que ça. L'événement était destiné à déclencher un mouvement mondial pour combattre la crise climatique. Le concert Life Earth s'était donné pour le but de sensibiliser le public et de collecter de l'argent. Les fonds récoltés iront à la Fondation pour l'environnement de l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Ce dernier est devenu le plus grand défenseur du climat depuis le succès de son film Une vérité qui dérange, sorti en mai 2006 aux États-Unis. Les concerts de Life Earth ont sûrement atteint leur but de sensibiliser le public. Le fait qu'ils aient eu lieu sur tous les continents montre que les organisateurs ont déjà réussi à trouver des bonnes volontés partout. Mais si on regarde de plus près, est-ce que tout ça vaut vraiment le coup? Les concerts et les voyages des participants eux-mêmes ont entraîné une production de gaz carbonique énorme. L'idée du concert était de changer les habitudes des gens. Mais est-ce que les fans venus pour voir leurs idoles vont être influencés par cela? Est-ce que ce n'est pas plutôt un grand événement médiatique qui sert à rendre les artistes connus encore plus connus avec une étiquette écolo? Des critiques disent aussi que l'organisateur Al Gore envisage de retourner à la politique. Un engagement comme Life Earth lui fera sûrement une bonne campagne électorale. Si des actions comme le Life Earth aident à sensibiliser les spectateurs aux problèmes mondiaux, cela peut aussi influencer les décisions des hommes puissants. Avec la mobilisation de quelques stars glamour pour le Life Earth, peut-être que certains fans vont se découvrir une fibre écologique. La prochaine fois que vous laisserez l'eau couler en vous brossant les dents, vous saurez que Shakira n'est pas d'accord.
Vous écoutez maintenant le groupe Boycott avec la chanson « Jopaldas al mundo ».
Bienvenidos.
face du rock espagnol a un projet qui rock aussi, Horizon. 60 personnes, notamment autostoppeurs, voyagent à travers l'Europe. Leur but, sensibiliser des jeunes aux objectifs du millénaire. Et cette année, ils arrêtent aussi à Nancy.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'idée d'Horizon ?
Le projet Horizon, c'est une campagne de 3 semaines. Durant cette campagne, 50 jeunes européens ont 16 nationalités différentes, traversent une partie de l'Europe en autostop. On a une cinquantaine, et pour le stop, on est par équipe de 2. Chaque binôme a été tiré au hasard. On démarre à Riga, en Lettonie, le 21 août, puis on passe par la Pologne, Cracovie, puis Bratislava en Slovaquie, Prague en République tchèque, Fribourg en Allemagne, Bâle en Suisse, Nancy en France et on termine à Bruxelles en Belgique.
Donc comment vous avez choisi Nancy en particulier ?
C'était pas mal dû au positionnement géographique parce que vu qu'on est en stop, on peut pas aller n'importe où non plus.
C'est vrai.
Et vu que c'est une grande ville étudiante, ça pourrait faire quelque chose de sympa dans le cadre d'Horizon.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est exactement les objectifs du millénaire ? Vu que c'est un peu le but d'Horizon de sensibiliser les gens aux objectifs du millénaire.
Donc en fait, les objectifs du millénaire ont été établis en 2000 lors d'un sommet international. Mmh. Et les 191 États membres de l'ONU ont signé les objectifs du millénaire. Ils se sont engagés à les réaliser d'ici 2015. Donc ces 8 objectifs sont d'ici 2015, réduire l'extrême pauvreté et la faim. 2, assurer l'éducation primaire pour tous. 3, mmh. promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes. 4, réduire la mortalité infantile. 5, améliorer la santé maternelle. 6, combattre le VIH, sida, le paludisme et d'autres maladies. 7, assurer un environnement durable. 8, mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Donc c'est un peu de tout.
Oui, ça regroupe beaucoup de choses.
Oui, et assez ambitieux.
L'idée d'un stop, c'est pas seulement pour s'amuser parce qu'on trouve ça marrant, c'est également, en fait, dans chaque événement, chaque ville dans laquelle je vous ai dit, les 8 villes dans lesquelles on s'arrête, on organise des événements où là on essaye de sensibiliser un maximum de personnes, sachant qu'on vise pas seulement les gens qui sont déjà dans le milieu associatif, tout ça, qui pourraient déjà se sentir concernés par ce genre de choses, mais également en parler à des gens à qui ça peut paraître très loin de leur quotidien ou de leur vie ou de leurs problèmes. Mmh. Et l'idée de faire du stop, c'est aussi ça, c'est que 50 Européens avec des grands sacs à dos, tout ça, qui font le même trajet en stop au même moment, ça peut laisser une certaine trace, on se fait remarquer et on discute également avec les gens qui nous prennent en stop. Toujours en restant dans un esprit positif, on peut être les 50 autostoppeurs à se balader en ville, par exemple avec des instruments de musique, un peu comme une fanfare, à hurler des slogans, tout ça, pour que les gens nous voient.
Merci beaucoup, Julien. Et donc, on se parlera samedi 8 septembre, je dirais.
Vous êtes bien chez Europe & Roll. On continue sur notre lancée avec une chanson punk rock de Pologne. Le groupe Pyjama Porno avec Slodzieje Zapalniczek.
Każdy dobrze zarobić. Nie ma opcji.
vous êtes chez Europe & Roll et c'était le groupe Pyjama Porno avec une chanson imprononçable. L'année européenne 2007 de l'égalité des chances a comme objectif de sensibiliser les Européens aux discriminations. Ulrike a parlé avec Rémi Doué de l'association Christelle.
Je suis avec Rémi Doué et donc Rémi Doué est chargé de mission européenne au sein de l'association Christelle. Je suis avec lui pour parler de l'année européenne de l'égalité des chances.
L'année européenne de l'égalité des chances, c'est une grande thématique que lance l'Union européenne sur laquelle il y aura des financements et en général, ce sera de la sensibilisation de l'opinion publique sur ces thématiques. Pour donner un exemple, en 2006, c'était sur la mobilité des travailleurs. Et en 2008, ce sera sur le dialogue interculturel.
Et c'est pour qui qu'on a fait cette année de l'égalité des chances?
Ça concerne tout le monde, hein, puisque ce sera les États membres déjà qui vont s'impliquer là-dedans. Ce sera pour les ONG, les associations, des partenaires sociaux, mais c'est aussi pour les citoyens et en particulier les jeunes. Si des jeunes veulent monter un échange de jeunes ou une initiative de jeunes, si leur projet s'inscrit dans les objectifs de l'année européenne, leur projet sera prioritaire par rapport à d'autres.
C'est quoi les objectifs de cette année-là?
Ce sera déjà le respect entre les personnes, pour réduire les stéréotypes, etc. La représentation des groupes qui seront discriminés. Et ensuite, sensibiliser les gens sur le fait que, tout bêtement, la discrimination, c'est pas normal. Et qu'il y a des organismes pour les aider à surmonter tout ça. En France, c'est la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui gère tout ça.
Et ça pourrait être quoi un projet dans le cadre de cette année?
Je vais donner un exemple concret. Ça a été fait par l'UFCS, c'est-à-dire l'Union Féminine Civique et Sociale, qui a eu plusieurs objectifs, c'est-à-dire observer les discriminations, recenser les bonnes pratiques et ensuite organiser des colloques pour diffuser les résultats.
Et donc, c'est qui exactement qui est touché par la discrimination?
Il y a 6 critères de discrimination qui ont été identifiés. Ce sera par exemple par rapport au sexe, en faveur de l'égalité homme-femme, par rapport à l'origine ethnique aussi, par rapport à la religion ou les convictions politiques, les discriminations par rapport au handicap, par rapport à l'âge ou également l'orientation sexuelle.
Vous avez parlé de la HALD, donc qu'est-ce qu'elle fait exactement?
La HALD, on peut la contacter si on pense qu'on est discriminé. Ils peuvent organiser des testings. On connaît ça un petit peu avec les boîtes de nuit, hein, c'est assez connu, avec les personnes d'origine différente qui ne pourront pas entrer en boîte de nuit en fonction de leur origine ou de leur couleur de peau. Puis ensuite, ils diffusent les bonnes pratiques et ils font de la sensibilisation du public. Les actions sont généralement financées à la fois par l'Union européenne et par l'État français. Mais de toute manière, si l'Union européenne engage 1 euro, la France devra fournir l'euro suivant.
Maintenant, vous écoutez une chanson de Serbie, un groupe tzigane, Kal, avec Obrenovac Bugi. We'll be right back. On a dansé avec le groupe serbe Kal. Et maintenant, on reprend un ancien sujet de cette année, mais il est toujours d'actualité. Depuis les années 70, le recyclage est une activité importante de l'économie et des conditions de vie des pays développés. Cédric vous en dira plus.
Depuis le 15 novembre, les Français qui achètent un appareil électrique, du téléphone portable au réfrigérateur, doivent payer une nouvelle taxe. Elle sert à financer le retraitement des appareils en fin de vie, qu'il s'agisse de votre sèche-cheveux court-circuité ou de votre vieux téléviseur cathodique. Sur l'étiquette, on affichera désormais une somme appelée éco-participation. Sur votre nouveau portable, l'éco-participation ne représentera qu'un centime d'euro, mais elle pourra grimper jusqu'à 15 euros pour un gros réfrigérateur. Les produits concernés porteront un logo indélébile représentant une poubelle barrée d'une croix. Sont visés tous les équipements qui fonctionnent avec une batterie ou une prise électrique. La directive précise tout de même que ni le matériel militaire ni les véhicules ne sont pris en compte par le dispositif. Pas la peine donc de rapporter votre ancienne voiture chez le garagiste en lui demandant de la recycler. Il faut savoir que cette nouvelle réglementation vient d'abord de l'Europe. La loi qui institue l'éco-participation en France est en fait la transposition d'une directive prise au niveau européen dès le 26 janvier 2003. Cette directive européenne était censée être transposée dans tous les États membres avant le 13 août 2004. Mais en France comme ailleurs, on sait que les étapes nécessaires à la transposition d'une directive européenne progressent très lentement. Il faut dire que faire respecter le principe du pollueur-payeur n'est pas une mince affaire. La filière compte donc beaucoup sur la fibre écolo du consommateur. L'organisation en magasin n'est pas simple non plus. Il faut changer toutes les étiquettes en rayon, prévoir de quoi stocker les appareils usagés et former le personnel. En effet, les déchets électroniques, toujours croissants, posent de nombreux problèmes. Des substances cancérigènes présentes dans les appareils s'infiltrent dans les nappes phréatiques jusque dans l'organisme humain, les mousses des réfrigérateurs émettent des gaz toxiques pour l'homme et pour l'environnement si elles sont brûlées. Bref, incinérer ces déchets ou les enterrer n'est pas une bonne idée. En payant l'éco-participation, le consommateur favorise d'autres solutions. Chacun peut rapporter son ancien appareil chez le distributeur qui prendra en charge son retraitement. Autre possibilité, le consommateur avec son vieux grippin sur les bras peut le donner à une société de réinsertion comme Emmaüs qui se chargera de lui offrir une seconde vie en le réparant et en le revendant à bas prix. Cette filière est en pleine expansion et connaît une concurrence féroce. Sur Strasbourg, le réseau Envie2E emploie 750 personnes et vend 4500 appareils ménagers chaque année.
Nous vous avons présenté un mix de rock mélangé avec des sujets variés de l'Europe. Et voilà, c'est Europe and Roll. Retrouvez-nous dimanche à 13h30, lundi à 19h30 et minuit, et mardi à 12h30. La semaine prochaine, on parlera d'Italie et en particulier de la ville de Padoue. Au revoir.